I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand j'ai proposé le projet, tout au début, j'avais proposé à Frédéric, je vais faire une série avec un père qui aurait quatre filles. Allons-y pour quatre filles. Je me suis dit, allons, tant qu'à faire. Et il m'a dit, ah ouais, intéressant. Et j'ai rajouté, ça c'était vraiment une inspiration de dernière minute. Je lui ai dit, elles auront quatre mamans différentes. Et il me dit, ah ça c'est pas banal. Il m'a dit, bon bah début octobre, je me rends des pages et voilà. Je me suis dit, mince, dans quoi je me suis fourré.
Exécuté par qui ?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est avec Nob, donc salut.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir et de venir à mon micro, Nob, c'est cool. J'ai découvert que tu étais l'heureux papa de cette, alors de plein de BD, mais de cette série de BD aussi qui s'appelle Dad, où tu mets en scène un père célibataire qui a quatre filles et qui s'occupe de ses quatre filles.
Voilà, il est père au foyer. Il n'est pas complètement père au foyer parce qu'il a toujours des velléités de... Il est comédien d'origine et en fait, il a un peu abandonné sa carrière petit à petit. À chaque fois qu'il relance sa carrière, en gros, il a un nouvel enfant, donc il se remet dans les couches. Et au final, oui, son activité principale, c'est vraiment d'être père au foyer parce qu'il est bien, bien occupé.
Avec ses quatre filles qui ont des âges très, très différents. La première, elle est étudiante, enfin, elle est née étudiante, c'est ça?
En gros, 20 ans pour la première, 12, 13 ans la seconde, 8, 9 ans, et la dernière qui, parce que la série évolue, mais doucement, donc la dernière, elle est maintenant elle doit avoir 2 ans, en fait, mais au tout début des premiers albums, elle avait 1 an.
Elle commence à marcher, tu les fais vieillir tout doucement comme...
Je les fais vieillir au ralenti. Mais c'est un peu une... Au début, j'ai beaucoup hésité à les faire vieillir.
Ah oui.
Et puis ça s'est fait un peu petit à petit. Au début, j'étais un peu dans l'idée de rester dans un temps un peu intemporel.
Comme Tintin ou Astérix.
Ouais, comme les classiques ou les Simpsons. Les références, ouais. C'était plus... en termes de famille, de vie de famille, c'était vraiment les Simpsons pour moi, ma référence. Et en fait, de jouer beaucoup sur les flashbacks. Parce que par exemple, dans les Simpsons, ils jouent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que la famille, elle bouge pas depuis 30 ans maintenant. Mais par contre, on apprend énormément de choses sur le passé de Homer ou de Marge. Et finalement, comme j'ai un rythme de... Il y a les albums qui sortent régulièrement, mais en fait, le vrai rythme de création de date, c'est le rythme de la parution dans le journal de Spirou, qui est un hebdomadaire. Donc, moi, mon rythme depuis le début de la série, c'est vraiment de créer une page par semaine pour le journal. C'est vraiment comme un rendez-vous comme une sitcom. Et je me suis attaché à ce rythme de très régulier qui fait que c'est un vrai rendez-vous pour les lecteurs. Chaque semaine, ils savent que qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Dad. Donc c'est vraiment très chronique. Et c'est vrai que finalement, à force, les années passant, mes propres enfants grandissant aussi, je fais évoluer très doucement la série pour avoir des nouvelles thématiques finalement. Et ça permet un peu aussi forcément, des enfants, ça grandit, donc c'est difficile à un moment donné de passer avant sur les différentes étapes de la vie des enfants. Même si le principe, finalement, tout au départ, l'idée d'avoir quatre filles, c'était un peu pour avoir sur le même plan temporel narratif, on va dire. Les quatre âges très différents de la vie d'un enfant. Donc vraiment, l'âge où il s'émancipe pour l'aîné, l'âge de l'adolescence, l'âge de l'enfance dynamique et très prenante, et le bébé, voilà. Donc ça me permettait d'avoir sur le même plan temporel, en fait, les quatre âges de l'éducation.
On va parler après de ton histoire de daron à toi, qui est pas forcément la même, parce que moi, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est autobiographique? Mais
c'est la première question de tout le monde.
J'imagine.
En délicate. Est-ce que vous avez 4 filles et est-ce que voilà. Et je sens toujours une pointe de déception chez les gens quand je leur dis que non. Il y a. Alors cette histoire d'autobiographie, c'est assez compliqué et c'est assez marrant d'ailleurs. Je trouve que c'est assez actuel parce que c'est vrai que la grande question des gens maintenant, en permanence, c'est toujours qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que c'est vrai? Et en fait, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a 51% de faux, de partie fictionnelle, mais quand même 49% de vrai. C'est juste que la partie fausse prend le pas sur le vrai, juste parce que ça me permet quand même de mettre un filtre. J'avais pas envie, quand j'ai créé la série, de faire de l'autofiction pure, et je trouvais ça d'autant plus dérangeant par rapport à mes propres enfants que eux allaient grandir, et je voulais pas qu'on leur mette un masque en disant ah toi t'es tel personnage, qui les fige une fois pour toutes comme personnage de BD, ce que je trouve un peu difficile à vivre pour eux. Donc voilà, donc ça permettait d'avoir un filtre, et c'est vrai qu'au final j'ai pas du tout l'avis de Dad, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Dad, donc, il est père célibataire, et chaque fille il les a eues avec un ménage différent, enfin avec une femme différente, donc c'est pour ça qu'elles sont aussi qu'elles ont autant de différences les unes les autres.
Puis elles sont très différentes aussi, elles ont chacune leur personnalité,
voilà,
et tout, c'est ça qui est cool.
Qui est lié aussi à la personnalité de leur mère. Et alors que pour le coup, moi, je vis en couple depuis plus de 20 ans maintenant, en couple heureux. Et voilà, donc voilà, toute cette partie-là, elle est très fictionnée. Mais je pense aussi que Dad, en fait, finalement, c'est un daron. Mais dans la manière dont je l'appréhende, en fait, c'est plus, il représente plus finalement mon couple. C'est-à-dire que Dad a autant des côtés à moi que des côtés à mon épouse. Et en fait, dans la manière dont je peux raconter des histoires du quotidien, il y a des choses qui sont plus vues finalement ou appréhendées par mon épouse ou par moi, en fait. J'ai un peu l'enveloppe physique de Dad, mais c'est vrai qu'après il y a quand même des choses dans la vie quotidienne qui sont plus, parce que finalement la thématique de Dad, c'est pas tant la paternité que l'éducation d'une manière générale.
Ouais, c'est sûr.
Donc ça dépasse un peu le cadre de simplement père ou mère.
Ceci dit, on est bien d'accord que c'est pas complètement anodin de venir mettre en scène un père célibataire avec 4 filles, qui élève seule ses 4 filles. T'as commencé la série il y a 7 ans, c'est ça?
Ça a démarré début 2014. Enfin, j'ai créé la série en 2013, en la proposant pour Spirou. Et ça a démarré tout janvier 2014 dans les pages du journal.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce personnage et de créer cette famille?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, faut remonter loin. Quand je suis rentré dans le show, dans le journal Tcho en 2000, un des tout premiers projets, j'ai passé plusieurs mois à présenter des tas de projets vraiment.
Cultissime,
avant...
Tcho.
Cultissime, fini depuis longtemps maintenant. Ouais. Pour resituer, c'était un magazine de bande dessinée qui a duré 15 ans, qui était lancé à l'initiative de Zep et de son éditeur Jean-Claude Camano, et qui a permis à des tas de... Donc leur projet, c'était vraiment de permettre à de jeunes auteurs de démarrer dans la bande dessinée. Parce que souvent, il y avait de moins en moins de supports de publication, et et c'était difficile pour les jeunes qui n'avaient jamais publié de trouver manière de publier. C'est-à-dire souvent, on publiait des gens qui avaient déjà fait leurs preuves. Donc Zep avait un peu souffert de ça lui-même quand il avait démarré, donc il s'était toujours dit que...
C'était avant les blogs BD.
Tout à fait, c'était vraiment la génération d'avant. Cela dit, on a eu un lien, parce que justement Boulet qui a démarré dans le show, après, toute cette histoire-là, ça s'est suivi un peu sur ces années 2000. Et donc voilà, donc en fait, on était beaucoup d'auteurs à avoir démarré dans ce journal. Donc pour en citer rapidement, mais il y a Thébault, Julien Niel, Boulet, Lisa Mandel, Mathilde Domecq, Buche, TM, voilà, je peux pas tous ces Billy Gobi, je peux pas tous les citer, mais bon, on était toute une bonne bande. Et voilà. Et moi, quand je suis rentré dans le journal, un des premiers projets que j'ai présenté, c'était une petite fille qui vivait avec son papa. Et voilà. Et à l'époque, le projet avait pas pris. Et voilà. Donc, j'ai proposé un autre projet qui s'appelait Mamette, qui a pas été pris non plus sur le moment, qui est revenu beaucoup plus tard. Et voilà. Et donc, il y avait cette idée-là je pourrais pas dire pourquoi, mais de vouloir traiter un père et sa fille. À l'époque, j'avais pas d'enfant, personnellement. Mais j'avais envie de traiter ce sujet-là. Donc en fait, finalement, c'est revenu beaucoup plus tard, mais entre-temps, j'avais eu des enfants. Donc dans le cas de Dad, quand Spirou m'a approché pour créer une série à gag, j'avais fait quelques pages en fait où je me mettais pour le coup moi en scène avec mes enfants dans l'atelier Mastodonte, qui était une série fictive, enfin non, pas fictive. comment dire, l'atelier mastodonte. L'atelier mastodonte, c'était un atelier donc où on racontait notre quotidien d'auteur. Donc on était tout un groupe. Donc on retrouve une partie des mêmes. Il y avait Lewis Trondheim qui était un peu le chef de l'atelier, Alfred, donc Julien Niel au début, Thébault. Et puis par la suite Jousselin, Aubion, Jouvray, Fabien Toulmé. On a été beaucoup à passer par l'atelier mastodonte et on racontait un peu une vie quotidienne un peu fictionnée. C'était très, ça partait toujours de la d'une vérité, mais sur lequel voilà on s'amusait beaucoup. Et j'avais fait il y avait une séquence où on devait partir en vacances dans l'atelier, donc on se retrouvait dans un château comme ça, on était tous en vacances et en fait Lewis voulait absolument qu'on bosse en permanence et moi je débarquais avec mes enfants, donc du coup ce qui perturbait les plans de travail de Lewis. Et ça m'avait beaucoup amusé de dessiner mes enfants et de me dessiner moi en tant que papa. Du coup, voilà, il y avait cette relation-là. Et donc je m'étais dit, c'est quand même un vrai thème que j'aimerais aborder, justement parler du fait d'être papa. Je l'avais pas fait encore. Voilà. Et donc quand Frédéric Niff, qui était rédacteur chef de Spirou, m'a proposé une série, j'ai rebondi là-dessus. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de le faire comme je l'avais fait dans l'atelier mastodonte, et donc justement de faire de l'autofiction et de raconter la vraie vie transformée. C'est pour ça que j'ai trouvé ce filtre, ce personnage qui me ressemble en partie quand même, mais voilà, qui est moi sans être moi.
Okay. Et c'est vrai que tu viens, alors un peu moins dans les albums plus récents, mais au début tu viens mettre beaucoup de flashbacks en fait pour venir raconter un peu la backstory, où tu viens amener aussi les mamans en fait dans la vie des persos pour amener un peu de corps à l'histoire et pas juste en faire tu disais une série gag quoi. C'est pas que des séries gags en fait, il y a des trucs qui touchent aussi hein.
À vrai dire, j'étais un peu embêté quand il m'a proposé une série de gags, parce que c'est un moment donné où je m'étais dit, c'est pas mon truc les gags. Parce que justement, oui, le problème des séries à gags, c'est qu'on reste souvent sur des personnages qui sont un peu marionnettes, qui sont prétextes à gags. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment envie de ça. Et du coup, c'est vrai qu'assez vite, alors quand j'ai proposé le projet, tout au début, j'avais proposé à Frédéric, je vais faire une série avec un père et qu'aurait quatre filles. Allons-y pour quatre filles. Je me suis dit, allons, tant qu'à faire. Et il m'a dit, ah ouais, intéressant. Et j'ai rajouté, et ça c'était vraiment une inspiration de dernière minute, parce qu'on s'envoyait des mails, on échangeait par mail. Je lui dis, elles auront quatre mamans différentes. Et on me dit, ah ça c'est pas banal. Et c'est vraiment venu comme ça. Et après coup, donc il a validé en fait le projet comme ça. Et il m'a dit, bon bah début octobre, tu me rends des pages. Et voilà. Je me suis dit, mince, dans quoi je me suis fourré. Mais c'est bien, des fois, faut pas trop réfléchir sur des projets. Des fois, ça part comme ça. Et voilà. Et c'est vrai qu'après coup, ma grande angoisse était de me dire, mais personne va croire à cette série. Et moi, ma problématique toujours en tant qu'auteur, ça a toujours été de faire des choses auxquelles les gens puissent s'identifier, s'attacher, croire au personnage. Voilà, j'aime pas ce côté, on va dire, non réaliste finalement de ce que je peux raconter. Donc ma grosse problématique, c'était vraiment ça, c'était comment on va croire à cette histoire. Donc qu'est-ce qui va faire que, pourquoi il s'est retrouvé là, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi pour savoir comment il pouvait s'être retrouvé dans cette situation. Et finalement, la backstory, elle est venue assez vite. Et du coup, je l'ai distillé petit à petit au fur et à mesure des albums, justement. Et en fait, c'est vrai que ça crée vraiment un attachement des lecteurs pour qui peut comprendre finalement le cheminement du personnage. Il se pose beaucoup de questions. C'est vraiment là, c'est pas une écriture de dans les influences. C'est pas tant finalement l'influence des BD à gags. C'est vraiment l'influence des séries télé finalement et de la manière dont maintenant les scénaristes de séries télé conçoivent les backstories des personnages et vers quoi ils vont, etc. C'est un peu ça que j'avais en tête quand même sur l'idée.
Ok. Parlons un peu de ton histoire de daron à toi. Donc t'as deux enfants aujourd'hui.
Oui.
Un fils, une fille aînée et un fils, c'est ça, cadet?
C'est ça, oui.
Qui ont 17.
Alors, on va dire 18 et 15 ans.
Ok, 18 et 15 ans. La question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'en es venu à être père, toi? D'où te vient cette envie d'être père?
Alors, je crois que j'ai toujours eu envie d'être père. C'est-à-dire que je me souviens que quand j'étais adolescent, je sais pas vraiment quel âge j'avais, je me rappelle pas, mais je me rappelle avoir fait un rêve comme ça où je devenais papa. et je m'étais réveillé en ayant une sensation très physique de tenir le bébé à la naissance. C'était un peu étrange comme rêve, hein, mais ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et voilà. Et en tout cas, je sais que je me suis jamais vraiment posé la question autrement que j'ai toujours su que je serais papa de toute façon et que et après ça, dans mon comportement, je suis assez paternel de toute façon. C'est-à-dire que je me suis beaucoup occupé de j'ai un frère qui est lequel on a 3 ans d'écart, donc là c'était plus une relation vraiment de frères proches, rapprochés. Mais après j'avais une sœur avec laquelle j'ai une sœur avec laquelle j'ai 7 ans d'écart, donc c'est vrai que là déjà à 7 ans, 7-8 ans d'écart, donc je me suis pas mal occupé d'elle pour quand elle a 1 an, lui donner à manger, tout ça. C'est vrai que je me suis vraiment beaucoup occupé d'elle. Et par la suite, en fait, mon père a eu un autre enfant, donc j'ai un autre frère, donc d'un autre ménage, on va dire, et qui est, donc là j'avais 18 ans d'écart avec lui, enfin j'ai 18 ans d'écart avec lui, et je me suis pas mal occupé de lui aussi quand il était petit. Et du coup c'était vraiment, oui, c'est des relations fraternelles, mais en même temps très paternelles aussi quand même, parce qu'il y a vraiment ce côté très éducatif déjà quand on a quasiment 20 ans d'écart.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
C'est vrai que quand j'étais jeune, mon petit frère venait en vacances chez nous, au début où je vivais avec ma femme, qui n'était pas encore ma femme. Mais c'était déjà comme si on avait un enfant à la maison, quoi. C'était assez amusant. Et du coup, voilà. Donc, et je sais que moi, dans mon comportement, j'ai toujours été paternel, parce qu'en fait, on parlait d'autre chose. Et pour en revenir plutôt au domaine professionnel, assez vite dans le journal, je suis devenu rédacteur en chef du journal Tcho. Je m'en suis occupé pendant 7-8 ans. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte après coup que j'avais quand même une manière de faire très paternelle, même si finalement j'avais le même âge que tout le monde. Enfin, on avait tous dans les 25-30 ans à l'époque. Mais j'étais quand même très paternel dans le journal avec les jeunes, etc. Et je sais que Lisa Mandel, elle me l'avait beaucoup dit, ça, en fait, que Jacob, enfin, elle m'avait dit une fois, ça m'avait fait marrer, c'était que comme j'étais très, très gentil et très doux, j'étais terrible comme rédacteur en chef, parce qu'elle pouvait rien me refuser, mais ça l'énervait beaucoup.
Bien joué.
Et oui, c'est vrai. J'avais dit oui, c'est un plan machiavélique. Mais voilà. Mais c'est vrai que finalement, je l'avais pas pensé comme ça à cette époque-là, mais en y repensant après coup, je trouvais que mes enfants étaient quasiment pas nés à toute cette époque-là. Finalement, j'ai arrêté de m'occuper d'autre chose. Ma fille avait 2 ans. Mais non, je me trompe dans les dates. Mon fils avait 2 ans, donc ma fille était déjà un peu plus âgée. Mais c'est vrai que j'avais une manière d'être, je pense quand même, qui était assez paternelle, déjà accompagnatrice en tout cas avec les jeunes auteurs. C'est quelque chose qui m'a toujours plu quand même. Je suis assez comme ça au quotidien.
D'accord. Comment ça se passe la première fois que tu apprends que tu vas être papa dans ta tête ?
Alors surtout, c'était très attendu. Alors c'est vrai que. Au début, mon épouse, quand je l'ai rencontrée, en fait, elle souhaitait pas avoir d'enfant.
Ah oh.
Ça aurait pu être un problème, mais c'est vrai que on était très amoureux, et je lui ai dit de toute façon, je m'en fais pas, ça viendra tout seul. Tu me le demanderas un jour, et voilà. Donc le temps est passé, on a vécu, voilà, on a beaucoup profité de quand on était jeunes ensemble, et après, c'est vrai que finalement. Quand on a décidé d'avoir, qu'elle m'a demandé, qu'elle m'avait dit qu'elle avait envie d'être mère, Donc là, ça a mis un certain temps quand même avant que notre fille arrive. Donc le jour où vraiment ma femme était enceinte, ça a été vraiment une grande joie. C'était et après, c'est vrai que ça a été une grossesse très douce, très 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 cocon. Et j'ai des souvenirs très doux de toute cette époque-là, en fait. Il se trouve que, en fait, à partir du moment où mon épouse a été enceinte, donc elle a travaillé, elle faisait beaucoup d'intérim, elle a travaillé dans plusieurs boîtes, etc. Mais à partir du moment où elle a été enceinte, en fait, elle a arrêté. Et comme j'avais commencé un peu à la former sur Photoshop pour m'aider sur... à l'époque, c'était pas encore des bandes dessinées, mais sur des cartes postales sur lesquelles je travaillais. Donc en fait, on a commencé un peu à travailler tous les deux à la maison, le temps qu'elle accouche. Et finalement, après coup, elle a pas eu envie de reprendre. Et à partir de là, on a toujours travaillé tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, même maintenant, 20 ans plus tard, elle est toujours là. Donc elle m'aide sur les couleurs des albums, elle me fait la préparation des couleurs, et après elle s'occupe de tout ce qui est contact, etc. Et ça, c'est vrai que ça nous a toujours permis de garder un rythme à nous. Et ce rythme à nous familial est vachement important dans la manière dont finalement on a fait grandir notre foyer finalement. Donc dès le début, dès qu'elle a été enceinte, on a commencé à travailler comme ça, en sachant pas du tout à l'époque si ça allait tenir, parce que c'est vrai que moi j'avoue que je l'imaginais pas forcément rester à la maison. C'était par rapport à la fille que j'avais rencontrée au départ, c'était pas forcément ce que j'aurais cru qu'il lui plairait, mais finalement voilà, on s'est tous épanouis comme ça. Et donc c'est vrai que ça a été une maternité très douce, parce qu'on était donc tous les deux à la maison, donc et tout a été doux jusqu'à l'accouchement et jusqu'à même l'après naissance. C'était vraiment ce rythme non imposé. C'est-à-dire que on travaillait quand il le fallait et aux heures de sieste ou aux heures de ou la nuit quand notre fille dormait, etc. Donc ça a vraiment été très tranquille comme et l'accouchement, j'attendais, j'anticipais. Mais même l'accouchement a été très intime aussi, parce que, alors, c'est assez rigolo parce qu'elle avait perdu les os à 11h le soir, donc on est tout de suite parti à l'hôpital. Enfin, à la clinique, et on a passé toute la nuit. C'était pas encore prêt, donc il fallait attendre, il fallait patienter. On nous a mis dans une chambre, voilà. Donc je l'ai massé pendant les contractions, et au bout d'un moment, on est rentré dans la salle de travail, mais c'était pas encore prêt, donc on a encore attendu. Et en fait, il y avait une grande baie vitrée dans la salle de travail. Et c'était l'automne, c'était début novembre, et donc j'ai un souvenir très très météo de ce moment-là, parce que on attendait, ça a mis long, parce que en gros, entre la perte des os et la naissance vraiment de Constance, donc parce que ma fille s'appelle Constance.
Ta fille, oui.
Oui, voilà. il s'est passé 21h, donc ça a quand même été vraiment toute la journée. Et on voyait vraiment le temps qui changeait, voilà, un peu de pluie, après le soleil qui revenait, il y avait les feuilles mortes qui étaient balayées par la fenêtre, il y avait des arbres. Bref, c'était très doux. Et en fait, comme assez vite, les infirmières ont vu qu'on gérait le truc. C'est-à-dire qu'en gros, dès que ça bipait, je remettais un peu tout ce qu'il fallait remettre, etc. Bon, je me rappelle plus exactement parce que ça fait 18 ans maintenant. Je sais que je remettais des trucs.
Tu mettais les capteurs.
Ouais, voilà. Et tout remettait bien. Donc, au début, les infirmières arrivaient en disant, non, je vois que c'est bon. Et en fait, du coup, après, elles venaient plus du tout. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, quand le travail a commencé, il a fallu que j'aille les chercher. Parce que... Et là, je crois que, en fait, vous êtes toujours là. C'était ça. Mais on entendait, c'était marrant parce qu'on entendait toutes les salles de travail à côté. On entendait vraiment les chariots, les cris des femmes qui accouchaient, le bébé qui arrivait, le chariot qui repartait. Et voilà. Et ça a été ininterrompu toute la journée. Et nous, on se disait, voilà.
Ça viendra, un de ces quatre.
Ça viendra. Et c'est vrai que du coup, quand elle est née, c'était vraiment la fin de la journée. Il restait plus que nous. Donc très vite, on est remonté dans la chambre. Heureusement, je pouvais dormir dans la chambre. Et en fait, j'ai dormi avec Constance sur moi. Ils nous ont laissé notre fille. Et donc la première nuit, donc elle a vraiment dormi comme une petite crevette sur moi. Et là, c'était un moment très fort, ça. Et donc voilà. Et après, non, j'ai des souvenirs très doux de toute cette époque-là.
T'étais content d'avoir une fille? C'était un truc que tu...
Alors, En fait, j'arrive.
Dad, il a 4 filles, quand même, tu vois.
Oui, mais il a 4 filles parce que c'est vrai que quand même, à la base, il y avait cette idée aussi de parler aussi de ma fille.
Oui.
Donc je peux pas dire, c'est un peu comme le fait la poule, je peux pas vraiment dire. Parce que j'arrive pas, je me suis posé la question. J'arrive pas à me rappeler, enfin, en tout cas, je crois que j'avais aucune attente de savoir si c'était une fille ou un garçon. Je m'étais pas projeté et j'arrive pas à me rappeler vraiment si j'avais. Je sais que ma femme voulait vraiment avoir une fille, avait vraiment envie d'avoir une fille en premier enfant, en tout cas. Moi, je m'étais dit, bah si c'est une fille, ça serait super. Et à partir de là, du coup, puis en plus, on l'a su assez vite finalement, parce que pour elle, on l'a su à 4 mois, alors que pour notre fils, on s'est dit, tiens, on va avoir la surprise. Ah, donc oui. Là, pour le coup, on savait pas. Comme on avait su pour la première. Mais vraiment, comme elle avait vraiment envie d'une fille, pour elle, de le savoir dès le début, comme ça, elle pouvait se dire, bon, bah, c'est une fille ou c'est un garçon. Mais voilà, c'était vraiment important pour elle. Et moi, j'avais pas de... Mais par contre, je sais qu'après, pour le second, donc pour Jules, je m'étais dit à l'époque que si c'était une deuxième fille, je serais très content. Enfin, j'avais pas ce côté, là maintenant on a la fille, il faut absolument avoir un garçon. Franchement, non. Je crois même que, enfin, j'aurais eu une deuxième fille, ça aurait été super, quoi.
T'es pas à la recherche d'un héritier.
Non, non, ça c'est pas du tout.
C'est pas le style.
C'est pas le style. Bon, cela dit, par contre, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que comme finalement c'était un garçon. Et ben c'est vrai qu'après on a une autre relation que je peux avoir avec ma fille, et donc c'est vrai qu'il y a sans doute un côté complémentaire. En fait je peux pas dire, je trouve que c'est difficile, je pense que c'est quand même des généralités, c'est sans doute lié à leur caractère, et c'est et leur caractère aussi lié peut-être à la manière dont justement il y a pas d'attente. Je pense que dans les familles où on attend vraiment le garçon, par exemple, quand il doit venir, ces familles où il y a 3 filles et puis le 4e, encore une fille. Je pense que c'est des trucs qui se ressemblent quand même, sans se dire, chez les enfants. Voilà, comme vraiment nous là vraiment pour le second, et c'était pareil pour mon épouse, pour le coup, autant elle avait envie d'une fille pour la première, autant pour le deuxième, elle n'avait pas d'attente spécifique, elle était un peu comme moi. Peut-être qu'elle avait peut-être plus envie quand même que moi d'avoir un garçon, justement pour avoir ce côté. Pour équilibrer. Mais je pense qu'après, les enfants, quand même, ils ressentent ce côté, bon, bah voilà, je suis là, je suis moi, et le principal, c'est que je sois moi. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, ce qui était amusant, c'est que c'était pas la même petite enfance, je trouve, dans les relations entre que ce soit avec ma fille ou avec mon fils. Mais il n'y a pas que le fait que ce soit fille et garçon, il y a aussi le fait que le deuxième, c'est pas non plus la même chose que le premier. On n'a pas la même manière d'être avec eux. Bah alors déjà, parce que moi je parlais du rythme pendant 3 ans jusqu'à la naissance de Jules, on était vraiment dans un anti-rythme social complet. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a quitté, on est parti vivre à Barcelone en fait, parce qu'à l'époque on vivait en Provence, on est parti vivre un peu à la montagne quelque temps dans le village d'origine de mon épouse, et après on est parti vivre à Barcelone. Et ce gros avantage de pouvoir travailler ensemble, c'était que du coup, on n'avait pas d'attache géographique. Et à Barcelone, parce que en fait, une partie de sa famille est de là-bas. Et voilà, et on a vraiment passé. Donc en tout, on a vécu presque 5 ans à Barcelone. Et donc en fait, ces années à Barcelone avec notre fille qui était petite, bah c'était super parce qu'on travaillait là encore quand elle faisait la sieste ou le soir, on se couchait très tard. Et on travaillait plutôt la nuit, donc on la couchait vers 8 heures, et puis après, on bossait jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Et du coup, le matin, bah, on se réveillait un peu en même temps qu'elle, et puis après, on se promenait dans la ville. Enfin, c'était, on allait au parc quand il y avait personne pour, il y avait pas la queue au toboggan, donc Constance pouvait faire du toboggan comme elle voulait. C'était vraiment la grande liberté. Et c'est vrai que c'était un anti-rythme social complet. On était complètement en décalage de tout. C'était super. Et cela dit, ça nous a joué un petit peu des tours, parce que quand Constance est rentrée à l'école, donc à Barcelone. Alors là, du coup, elle est tombée un peu de haut parce que tout d'un coup, elle s'est retrouvée. On s'en était pas rendu compte de ça, mais elle était pas vraiment habituée. Elle voyait évidemment des enfants, ses cousins, sa famille, etc. Mais elle était pas vraiment habituée à vivre en société, et l'adaptation a été un peu difficile pour elle.
Tu m'étonnes.
Et en plus, c'est le moment où son frère est arrivé aussi, donc il y avait beaucoup de choses en même temps. Ça a été et pour nous, ça a été dur aussi, parce que c'est vrai que nous, J'avais pas de montre, je regardais plus l'heure. Le seul rythme, c'était à un moment donné, il fallait rendre des pages à tel moment pour tel journal. Fallait rendre le journal, comme je m'en occupais aussi, fallait rendre le journal à temps. Mais une fois que ce rythme-là était posé, si par exemple le journal était envoyé, comme c'était un mensuel, et après on pouvait se prendre 3-4 jours à droite à gauche. Voilà, c'était très libre comme manière de vivre. Et alors que quand elle est rentrée à l'école, là, nous-mêmes, il a fallu retrouver un rythme social. Et ça a été compliqué. Et donc, du coup, de fait, lui, le deuxième arrivé, donc Jules arrivé dans un contexte où tout d'un coup, on était plus cadré, en fait, dans notre rythme de vie. Alors que jusqu'à présent, c'était très libre. Tout était beaucoup plus cadré. Voilà, se lever le matin, vite, le petit déj, amener à l'école, etc., etc. Donc, c'est vrai que lui, il a pas grandi il a pas eu ces premières années très douces comme ça, comme on a eu avec Constance. Donc, de fait, il a grandi dans un autre rythme dès le départ.
D'accord.
Et voilà. Et après, lui-même, en fait, quand t'es le deuxième enfant, forcément, il y a plein de problématiques différentes. C'est-à-dire que c'est vrai que Constance pouvait se permettre on peut la laisser pleurer, même si c'était peu arrivé, pour dormir, tandis que là, quand Jules pleurait, on avait peur qu'il réveille Constance, qui devait aller à l'école le lendemain. Enfin bon, voilà, c'est ce truc-là. Donc c'est plein de petites choses qui font que forcément, puis on bouge moins de la même manière. C'est-à-dire que quand notre fille était toute petite, on avait plein de copains à droite à gauche, on la prenait dans le couffin, et voilà, elle dormait dans un coin. On s'était toujours dit, on ne va pas changer notre rythme de vie pour elle. Et du coup, c'est vrai que je pense toujours qu'un enfant habitué à avoir un rythme de ses parents, ou ça, après, il est tout terrain. Au contraire, je pense que c'est pas un bon choix que de dire, il faut absolument tout de suite, tout devient feutré, tout devient, il faut rien faire, il faut s'interdire de vivre, parce que déjà, ça fait des parents qui sont malheureux, et du coup, qui rendent leurs enfants malheureux. Donc, nous, elle dormait très bien partout. On allait manger chez les copains. Elle dormait on la mettait dans le couffin. On la mettait dans un petit coin d'une chambre, etc. Elle dormait super bien. Elle se rendait pas du tout compte. Et voilà. Et par contre, c'est vrai que quand on a un deuxième, tout devient un peu plus compliqué techniquement. Parce que le couffin, mais il y a aussi la première à bouger l'imprécette, etc. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'était moins organisé, voilà.
Une vie un peu plus d'adulte, quoi. Comme on l'imagine.
Alors qu'on l'était pas encore trop.
Vous étiez jeunes, tous les deux?
Ouais, on avait 30 ans.
OK.
30 et 33, ouais. Donc, non, on avait déjà bien vécu notre vie de jeunes adultes.
OK. c'est quoi le rapport de tes enfants à ton métier et à votre métier? Donc, parce que je viens de capter que la Laurence que tu cites pour faire les couleurs dans BAD,
c'est mon épouse.
C'est la même que celle que tu cites en haut pour les dédicaces.
Tout à fait.
Donc c'est quoi le rapport de tes enfants à, tu sais, je crois qu'il y a toujours un peu ce cliché de « Ah, mon papa, il fait des dessins et ça, c'est trop cool ». Comment ça s'est...
Je crois que ça, c'est un cliché un peu extérieur, à mon avis, parce que pendant longtemps... Enfin, il y a plusieurs étapes. De toute façon, c'est pareil. En grandissant, ils l'appréhendent différemment. Pour eux, ça permet de désacraliser beaucoup la création. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la création comme quelque chose d'inabordable. Au contraire, on peut en faire un métier, on peut... Ils le fantasment pas non plus. Ils voient bien la part de on va dire, de sueur et éventuellement de larmes. J'en fais un peu trop, mais que ça peut représenter. C'est-à-dire, en tout cas, ils voient bien les soirées tardives à travailler, voir les nuits blanches à une époque, même si maintenant j'en fais plus, mais ça a pu arriver longtemps. Enfin, tout ça, ils l'ont vu quand même. Cela dit, donc ils ont un peu, ils voient vraiment les deux côtés du domaine. C'est-à-dire que à la fois, parce qu'en plus maintenant, grandissant, ils se destinent un peu à des métiers créatifs aussi. Ah. Donc ça les a pas dégoûtés. Ils voient l'effort que ça représente, mais ils se disent que c'est possible. Donc en fait, ils ont une sorte de bonne confiance en eux, voilà. Et c'est, pour eux, voilà, c'est pas du tout un truc sacré. Et puis même, c'est marrant, il y a une part très intuitive, mais je les trouve très matures sur plein de manières. Enfin, par exemple, quelque chose que moi, personnellement, j'avais pas du tout quand j'avais 20, 25 ans que je démarrais dans la BD. Pour moi, ça semblait, il y avait plein de fantasmes, on va dire, que eux n'ont pas du tout. Il y a sans doute une part de fantasme, mais à leur âge, encore heureux. Enfin, un peu peut-être de naïveté, mais au contraire, il faut l'avoir, cette naïveté. Mais sinon, on fait rien. Mais par contre, voilà, ils sont quand même très très conscients des choses. Alors après, il y a vraiment plusieurs étapes. Quand ils étaient petits, il y avait quand même une grosse frustration. Alors en particulier chez mon fils, qui m'avait dit une fois, parce que donc en fait il me voit travailler à la maison, mais en même temps, tu viens jouer, non, je peux pas, je suis occupé. Et du coup, je me rappelle, mon fils m'avait dit une fois, en fait, c'est nul d'avoir un père à la maison, parce que de toute façon, si c'est pour travailler tout le temps, il y a aucun intérêt. Et mal pris.
Dur.
Ça m'avait, c'était un peu dur. Et voilà. Mais ça, avec le temps, ils l'ont compris aussi. C'est-à-dire qu'un, c'était un âge, je sais pas, il devait avoir 3-4 ans à l'époque. Le côté, les obligations, etc. Enfin, qu'il y a une part d'amusement et une part de, il y a un temps pour tout. Finalement, c'est venu assez vite. Assez vite, ils ont compris que malgré tout, ils avaient des copains, dont le papa partait à 8h du matin et rentrait à 8h du soir pour leur faire le bisou avant de dormir. Et ça, c'était comme ça toute la semaine. Bon, voilà. Et, parce que c'est vrai que des fois, ils me faisaient des commentaires. Ils me disaient, le papa, il est, là, le week-end, il est vachement avec eux, etc. Je dis, oui, mais toute la semaine, il les voit pas. Donc, il rattrape. Je dis, moi, je suis avec vous toute la semaine. Donc, même le week-end, je suis pas toujours dispo, parce que c'est vrai que par contre, ça reste un métier prenant, la BD. Donc, c'est vrai que quand on est à la maison, on a un peu tendance à en profiter le samedi pour finir un truc, pour faire un truc. Voilà. Moi aussi, j'ai évolué par rapport à ça. J'ai aussi appris à gérer mon temps. C'est-à-dire que, avec le temps, j'ai appris à couper plus que je pouvais faire à une époque. Donc, voilà. Donc, ça, on apprend les uns des autres aussi par rapport à ça. Mais au début, voilà. Donc, mais en tout cas, le côté, c'est cool, mon papa, il dessine. Je crois pas qu'il ait eu super longtemps, finalement. Il trouve ça toujours un peu rigolo, des fois. Enfin, il trouvait ça un peu rigolo, des fois. Mais par contre, ça les a un peu, par exemple, ma fille, elle dit toujours que, elle, le truc qu'elle veut vraiment pas faire dans la vie, c'est rester dans un bureau chez elle, toute la journée. Elle veut rencontrer du monde. Donc, elle veut travailler en équipe, elle veut travailler avec des gens, etc. Donc, pour le coup, elle veut travailler dans l'audiovisuel. Elle fait des études d'audiovisuel, mais justement, il y a cette part de création, mais en équipe. C'est là où il y a un peu ce côté. J'aime bien ce que tu fais, mais par contre, de la manière dont tu le fais, non, ça me dit pas. Et voilà.
Elle a pas non plus connu les années où t'étais rédac chef d'autre show, j'imagine.
En même temps, c'était rédac chef d'autre show, c'était à la maison.
T'étais chez toi quand même.
Je crois que c'était le premier journal fait à la maison avec les mails. Alors à l'époque, c'était encore, on envoyait le journal sur CD-ROM. J'avais un coursier qui passait pour prendre le CD-ROM. Le jour où le FTP est arrivé, c'était génial. C'était déjà fait beaucoup à la maison et par les réseaux, même si les réseaux n'existaient pas.
C'était déjà prêt pour le Covid et le confinement, quoi, à l'époque.
À l'époque, ouais, c'était en 2000 et quelques. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça me fait toujours marrer comme truc, donc c'était 2002 dans ces eaux-là. Je cherchais un système pour pouvoir communiquer tous, une plateforme qui permettait de communiquer facilement. Je cherchais une sorte de forum un peu privé où on aurait pu discuter tous, un peu comme faire une salle de rédaction virtuelle. Et j'étais tombé comme ça sur un article sur les blogs qui venaient d'être créés. Et je me rappelle, j'étais connecté, parce que du coup, en plus à l'époque, attention les jeunes, hein, on parle vraiment de choses anciennes. J'étais connecté donc sur mon 56K et donc Boulet m'envoie un mail pour Tchou et je lui réponds, il me dit « Oh, t'es connecté !» Parce qu'à l'époque, on n'était pas connectés en même temps. Et il me dit, tu fais quoi? J'ai dit, je lis un truc sur les blogs, ça a l'air intéressant pour faire. Il me dit, un blog, c'est quoi cette merde encore? Et donc, c'est dommage parce que j'ai pas ce mail. C'est parti. Mais j'aimerais tellement faire des t-shirts maintenant. Boulet, un blog, c'est quoi cette merde?
Si vous connaissez pas Boulet s'est fait connaître notamment par son blog qui a eu un succès.
Tout à fait. Mais je trouve que c'est fabuleux. Une citation culte. Et voilà. Et donc voilà, c'était tu vois, on était un peu dans ce truc-là pré-blog, pré-internet généralisé, où on cherchait des manières. On était tout jeune et on cherchait des manières de travailler différentes, et c'était intéressant. Tchou était fait, était pas. Moi, je bouclais le journal. J'avais ma fille dans les bras, donc à 3h du matin pour boucler le journal. J'ai une photo comme ça où je suis avec elle dans les bras en train de dormir. Je suis en train de maqueter le dernier numéro de l'époque, voilà. Et d'ailleurs, une bonne partie de Tchou, à l'époque où on était arrivé à Barcelone, j'avais pas internet chez moi, et du coup, je finissais Tchou dans les cybercafés de Barcelone. Ça fait classe quand même.
Waouh. Les cybercafés, les jeunes, c'est à l'époque. Alors, il y avait pas internet partout, et donc il y avait des endroits où on pouvait se connecter.
On parle vraiment d'un autre monde.
J'aime bien faire parfois les vieux trucs, tu sais, quand je...
On n'est pas si vieux en même temps, mais ça passe vite.
Hein. Ça semble loin.
À l'âge d'Internet.
Et tu me disais que ton fiston allait aussi vers des métiers créatifs.
Il est dans l'audiovisuel à fond.
Ah ouais. C'est... Mais ils font quoi alors tous les deux? Ils font de l'image qui bouge, contrairement à toi, quoi.
Oui, tout à fait. Constance, c'est vrai qu'à l'école, au lycée, elle a fait des courts-métrages. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont assez aussi. Alors, dans la vie, ils sont très complémentaires. Ils sont très fusionnels et très complémentaires. Et même, je trouve, d'un point de vue, maintenant qu'ils commencent un peu à être, donc 18 et 15 ans, on commence à s'affirmer quand même au niveau de la personnalité. Je me rends compte que ma fille, elle est vraiment dans l'image. D'ailleurs, elle, ce qui l'intéresse vraiment, c'est plutôt la photo, ce qu'elle aimerait faire dans l'audiovisuel, par exemple, c'est vraiment directrice photo, c'est vraiment s'occuper de l'image. Ça peut encore évoluer, parce que là, elle est quand même au début des études, mais elle peint, elle a le côté plastique de l'image. Alors que Jules est vraiment narratif. Lui, son truc, c'est le montage, il adore le montage, écrire des histoires, réfléchir à la narration. Et donc, vous voyez, ils ont un côté assez, assez complémentaire là-dessus. Et c'est vrai que lui, il est fan des youtubeurs globalement, il adore ce côté do it yourself en fait des youtubeurs. Il en suit beaucoup et c'est vrai que on est retombé il y a pas longtemps sur des vidéos qu'il faisait il y a 2 ou 3 ans. Donc finalement, quand il a commencé, Jules à un moment donné, il me tannait pour que je lui installe un logiciel de montage et que je lui explique comment ça marche. Sachant que moi, j'en fais pas beaucoup, donc je sais comment ça marche, les logiciels, voilà. Et un jour, je lui ai installé, je lui ai dit, je vais venir pour t'expliquer. Et puis, en fait, il a passé l'après-midi tout seul à se filmer. Il avait fait un clip, il avait repris une chanson d'un clip de rap, il s'est filmé lui-même tout seul dans la cour de notre maison. Et après, il a monté, il a fait tout ça dans la journée et le soir, il nous l'a projeté et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? T'as tout compris très rapidement. Et du coup, alors maintenant, en fait, il est ultra technique à fond, ultra calé. Donc, il a passé un petit moment, quand il avait 12-13 ans, il faisait des vidéos, on va dire, de sketch de youtubeur, en fait. Ouais. Et il se débrouillait vraiment super bien. Sauf qu'assez vite, par contre, il a pas eu envie de... Le côté, il avait posté 1 ou 2 vidéos, puis le côté retour des gens, like, je sais pas, ça l'a pas... Et du coup, maintenant, il travaille vraiment... Alors, il nous fait les montages des vacances. Il adore faire des heures et des heures de vidéos. Puis après, il nous fait un montage de voyage, de ce qu'on fait. Là, pareil, au lycée, il commence un peu à refaire des courts-métrages narratifs, en fait. Enfin, à penser à des histoires qui... Mais c'est vraiment son truc. Il est complètement dedans, quoi. Il est passionné. Il lit tous les bouquins sur comment réaliser les plans, etc. Enfin, donc, bon. Non, je crois que les deux, ils sont quand même bien dans leur domaine et bien partis dedans.
Comment vous avez fait en termes d'éducation pour qu'ils s'entendent bien? Tu disais, ils sont très fusionnels et tout. Est-ce que tu as la sensation avec le recul que vous avez choses?
Je crois pas du tout qu'on ait... Enfin, je trouve que l'éducation, je crois qu'en tant que parent, on accompagne, mais on accompagne ce qui est déjà là. C'est-à-dire qu'on peut que accompagner un peu le courant et voir un peu comment ça se passe, mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait on a fait ci et ça, ce qui a permis de les rapprocher, etc. Non, ça s'est fait de naturellement. Dès que Jules est né, sa sœur était super contente d'avoir un petit frère, super fière, et en fait voilà, ils se sont toujours bien entendus, ça a toujours été comme ça depuis leur plus jeune âge, quoi. Donc ouais, c'est après je sais pas, il y a peut-être des choses qu'on a fait qui alors ça justement, c'est dans Dad, je fais l'inverse de ce qu'on est finalement en tant que parent, c'est-à-dire que Dad, les ressorts comiques, c'est justement que Dad est très faites ce que je dis mais pas ce que je fais, c'est-à-dire que justement en général, il est le premier à faire l'inverse de ce qu'il veut impliquer à ses filles, parce que justement, ça, c'est un ressort comique, et ses filles lui renvoient bien. Et d'ailleurs, souvent, je me rappelle au tout début de la série, quand je rencontrais des lecteurs, des jeunes lecteurs, je leur demandais ce qui les faisait le plus rire chez Dad, ils me disaient sa mauvaise foi. Parce qu'ils me disaient, mais les parents, ils sont comme ça, ils ont une grande mauvaise foi. Et ça m'avait fait rire, parce que je pense beaucoup à ça, oui, je pense que Si les lecteurs réagissaient, les jeunes lecteurs réagissaient à ça, c'est que c'est vraiment un truc qu'ils vivaient tellement au quotidien. Et je pense que entre eux, ça les fait tellement rire de voir ce que les parents peuvent dire et faire en vrai. Donc voilà. Donc forcément, nous, je vais pas dire qu'on est super fort pour faire exactement ce qu'on dit, mais globalement, on est plutôt raccord avec ce qu'on est. Je ne crois pas qu'on leur raconte énormément de salades. Et ou alors on se moque dans la famille, on se moque beaucoup nous les uns les autres quand même. Donc disons globalement
en termes d'autodérision, tu veux dire, ou
ouais,
de
oui les uns les autres,
de pas ok,
enfin nous-mêmes et les uns les autres, ça marche. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que moi je suis assez fusionnel avec mon épouse, on est vraiment deux, on est.
J'espère pour vous, hein, vu le temps que vous passez.
Les gens, quand ils nous disent, mais vous travaillez ensemble, vous passez toutes les journées ensemble, mais comment vous faites? On se pose même plus la question, c'est comme ça.
C'est mieux de bien s'entendre.
C'est comme ça depuis 20 ans, et bon, je vois pas de raison que, enfin, il n'y a pas de raison que ça change, voilà. Et c'est vrai que, je pense que oui, il y a ce côté un peu, ils nous voient faire, et du coup, ils savent que des fois il y a des disputes, mais ils savent qu'on se réconcilie. Enfin, c'est pas si souvent que ça. Et puis on se réconcilie assez vite. On voit qu'on essaye de. Après une dispute, c'est pas toujours facile de dialoguer, mais enfin, on voit quand même qu'on essaye à un moment donné de résoudre les problèmes. Donc, je pense que tout ça, c'est des choses qu'ils appliquent à eux aussi. Et c'est vrai qu'après, moi maintenant, quand ils se disputent eux aussi, je vais les voir. Alors, j'exagère un peu les choses, donc parce qu'au bout d'un moment, ça fait rigoler. C'est toujours plus rigolo. Enfin, les choses passent toujours mieux quand on rigole. Mais je leur dis allez, on se réconcilie. Alors bon, ça dure un moment donné. Ils vont faire chacun leur boudin, et puis après, à un moment donné, c'est. Ce qui est assez marrant, je trouve, dans une famille comme ça, avec le temps, il y a une sorte de storytelling de la famille qu'on crée. Et en fait, on se crée des tas de codes complètement internes. Déjà, des histoires qui deviennent vraiment des sortes de mythes familiaux. Et puis aussi des manières d'être. Si par exemple ils se disputent, il va y avoir une manière de faire un petit mot, une chanson, un truc qui va faire que tout d'un coup tout le monde dit oh, allez, c'est vrai. Bon, il y a vraiment une famille unie. Je trouve que c'est un storytelling aussi qu'on se crée. Et par rapport à ça,
c'est marrant ton œil de narrateur, tu vois.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est possible. Mais je pensais à ça l'autre jour aussi parce que je pensais à. Parce que je savais que tu allais m'interviewer, donc je réfléchissais finalement à cette histoire de Daron. Et je réfléchissais, et j'ai tout de suite pensé à Big Fish. En termes de film, je trouve que c'est le plus beau film. Alors, sur la paternité, parce qu'encore une fois, le narrateur parle de son père, mais globalement, je trouve sur la famille en général, sur cette idée justement de. J'adore cette histoire du père qui a raconté plein de choses et ses enfants se sont imaginés des grands mythes. Arrivé à l'âge adulte, il se rend compte que c'était des petites histoires, mais bon, c'est les grands mythes qui les ont fait grandir. Et je sais que mes enfants ont adoré Big Fish. Je crois que ça a vraiment résonné en eux. Et Dad, ça participe un peu de ça quand même, parce que justement, comme dans Dad, il y a le filtre quand même malgré tout de ça reste une série, donc c'est pas notre quotidien, etc. Mais je mets quand même en scène des trucs intimes à nous, rien qu'à nous, et ça les fait beaucoup, ça fait marrer vraiment tout le monde dans la famille. Que ce soit mon épouse ou nos enfants, de voir la manière dont ça se transmet dans la famille de Dad.
Ok. Est-ce que tes enfants te vannent sur tes poils, par exemple? Parce que ça.
Oui, ça, c'est lui.
Je vois que tes poils. C'est un gros truc chez Dad.
Non, mais maintenant, c'est fini, parce que maintenant, à l'époque, c'était les poils, mais maintenant, comme je vois moins bien, j'entends moins bien, je perds mes cheveux. Les cheveux, beaucoup. Les cheveux, c'est devenu un gros sujet de vanne. J'en avais beaucoup plus il y a encore 3-4 ans. Mais ça, c'est des sujets de vanne permanents. Mais bon, à un moment donné, il vaut mieux en rire, parce que sinon.
Bah oui. Mais puis dis à ton fils que moi aussi, je me suis beaucoup moqué de mon propre père qui était chauve, et regarde.
Voilà.
La calvitie arrive.
Je lui dis des fois, parce que lui, il a une bonne touffe de cheveux, je lui dis attention.
J'étais comme toi à ton âge.
Donc voilà. Donc ça le fait pas trop rire. Mais...
ça viendra. T'as été aussi dans un moment un peu particulier de ton histoire de daron, parce que là, on est à Bordeaux. Tu vis pas à Bordeaux normalement, parce que ta fille vient de s'installer. Donc, ouais, elle quitte le nid.
Tout à fait, elle quitte le nid familial. Oui, alors ça, c'est vraiment un moment particulier qu'on a pas mal anticipé aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé. Enfin, c'est marrant la manière dont les choses viennent. Enfin, c'est vrai qu'il y a un an, évidemment, on disait, dans un an... Alors, il faut savoir que nous, on vit dans un petit village de montagne. Donc, En gros, on sait que une fois que le bac est passé, pour les jeunes, il faut forcément quitter le foyer pour aller faire les études. C'est pas comme quand on habite en ville où en général cette étape-là peut durer plus longtemps. Mais donc voilà, donc on s'y est préparé, on le savait. Et mais c'est vrai qu'il y a un an, on avait beau se préparer, se dire ça sera, on va faire. J'avais vraiment du mal à le visualiser. Et c'est venu vraiment toute l'année, petit à petit, les choses deviennent plus concrètes. On va visiter l'appartement, hein, faire les dossiers pour les écoles, etc. Enfin, tout devient plus concret. Et puis il y a une sorte de gros chamboulement qui est l'installation. Alors ça, je l'ai vécu comme c'est tout frais parce que c'était il y a un mois. Il y a une sorte de moments très intenses où ça m'a rappelé à la fois mes années d'étudiant avec ces emménagements dans des petits appartements en ville au quatrième étage sans ascenseur où faut monter des meubles. En plus, il n'y avait pas de meubles, fallait tout monter, etc. Enfin voilà, ça m'a rappelé à la fois vraiment ma jeunesse et, sauf que voilà, c'est la jeunesse de ma fille. Et j'ai eu ce moment très particulier d'un matin où je me suis réveillé chez elle parce que du coup, voilà, j'avais dormi sur le canapé le temps d'installer l'appartement et je me suis réveillé un matin en me disant bah voilà, alors il y a 18 ans je faisais dormir ma fille sur moi et je me et 18 ans plus tard on n'a pas vu passer les choses, on se retrouve dans son appart à dormir. Ce moment, ce fait de dormir dans son canapé, ça m'a vraiment fait très bizarre comme sensation, ouais. Et voilà, et puis bah après bah les choses prennent vite leur cours. C'est vrai que encore une fois, comme je disais, on est très fusionnel, donc c'est vrai que ça a été on a vraiment passé des années tous les quatre ensemble tout le temps, vraiment tout le temps, justement en étant à la maison, etc., etc. On fait les. C'est vrai qu'on est vraiment une famille très très noyau, très cocon. L'album le dernier s'appelle Cocon familial, c'est pas pour rien. On est vraiment tous les quatre ensemble. Donc ma fille a un copain, en plus elle s'est installée avec son copain, donc on s'entend bien avec lui, donc ça marche super bien.
Très bonne idée.
C'est vrai que voilà, ça rajoute, ça voilà, il est rentré dans le cocon. Mais voilà, mais après voilà, cette étape, c'est vraiment comme tu coupes le cordon une deuxième fois. Je dis des banalités quand même, mais c'est très fort quand même comme sensation. C'est voilà. Et puis on sait qu'à partir de là, les choses seront plus comme avant. Alors après, par contre, c'est là où toutes les années précédentes ont joué leur jeu, c'est-à-dire que la proximité des rapports pendant toute son enfance et pendant toute notre période, on va dire, où on était ensemble, fait que voilà, il y a un lien qui restera toujours très fort. En fait, ce lien-là est super important. Et après, en étant adulte, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est une étape.
J'imagine que ça va être dur de défusionner.
Alors ça se fait quand même petit à petit, parce que c'est pareil, le lycée c'est déjà une étape un peu de diffusion, c'est-à-dire justement où ça devient où elle commence à sortir de son côté. Bah en plus c'était on sort en plus d'une étape un peu paradoxale, parce que c'est vrai que alors qu'on pensait que les années lycée ça serait des années où on la verrait moins, on a passé quasiment un an tout le temps ensemble, encore plus que d'habitude, puisque entre les confinements, entre elle c'est vrai que elle fait partie de cet âge où elle pensait que les années elle aurait 16, 17 ans au lycée, elle commencerait à sortir, et finalement non.
Bah oui.
Donc voilà. Donc à la fois elle arrive là à Bordeaux en étant, il y a plein de nouveautés, c'est la grande ville pour. Bon, heureusement on est habitué à beaucoup bouger, donc elle est quand même pas dépaysée non plus, c'est-à-dire qu'elle est habituée à aller en ville, mais bon quand même c'est tout d'un coup une nouvelle vie dans un centre urbain, un centre-ville, et avec la possibilité de sortir beaucoup plus facilement que ces 18 derniers mois. Donc ça fait vrai beaucoup de choses d'un coup, et mais en même temps, donc ça elle est ravie avec une école qui lui plaît, mais en même temps voilà, le prix à payer c'est bah voilà, maintenant son frère, ses parents sont plus à côté, donc je pense que pour elle aussi c'est très fort à vivre de ça, c'est vraiment un gros bouleversement, ouais, intime.
Work in progress, travail en cours.
Bon, rendez-vous dans 5 ans. Après, on verra le moment où ça sera notre fils qui partira aussi, parce que là, ça sera encore une autre.
L'étape de oh mon Dieu, nous sommes seuls.
Ben non, mais on l'anticipe déjà. On anticipe beaucoup. Hein, chez nous, on réfléchit beaucoup à qu'est-ce qui va se passer après. En fait, ça nous permet. Des fois, on parle de beaucoup de choses. On fait beaucoup de projets en permanence. Tout ne rebondit pas. Mais voilà, là, on s'est déjà dit que de toute façon, quand notre fils partira, pour nous, il n'y a aucune raison de rester là où on est, en tout cas au quotidien. On a cette chance vraiment incroyable, et j'espère que ça peut durer encore un maximum de temps, de pouvoir aller où on veut. parce que le travail, on le fait chez nous. Et c'est vrai qu'on a cette envie de bouger, en fait, de retrouver un peu ce non-rythme social qu'on avait avant la naissance des enfants. Et c'est assez étonnant, finalement, les enfants, parce que quand on s'imagine devenir parent, on imagine que ça va occuper toute notre vie. C'est vrai d'un certain sens, parce que forcément, on sera parent toute notre vie, mais finalement, la période éducative même, elle dure 20 ans. Et quand je dis 20 ans, je suis large. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants quittent, ils ont besoin de savoir qu'on n'est pas loin. Tant qu'on est en contact, voilà. Mais après, ils n'ont plus besoin de nous au quotidien. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que, bah voilà, c'était une étape de vie, mais on a encore plein de choses à vivre, mais ça ne sera pas forcément avec les enfants. Eux, ils vont vivre aussi des choses de leur côté, etc. Donc, tu parlais de diffusion, c'est exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné où le lien va rester, mais ça sera beaucoup plus.
Un peu plus diffus, en tout cas.
Diffus, c'est le mot, ouais, c'est exactement ça.
Il y a deux questions que je pose à la fin à tous mes darons. C'est quoi le truc que t'aurais aimé savoir avant d'être papa?
Je crois que ce que j'aurais aimé savoir, c'était ce que je viens de dire. Je m'étais pas rendu compte de ça, que ça durait pas, le fait d'être... quand on s'imagine parent, on parle toujours finalement de la petite enfance, mais ces années de petite enfance, ça passe tellement vite. C'est un bébé tous les jours, c'est déjà plus le même. Et moi, en tant que parent, j'avais l'impression de on a toujours une mise à jour de retard en tant que parent par rapport à nos enfants. Donc c'est-à-dire que quand on se dit il a grandi, il faut que on se met à jour, mais il a déjà encore grandi. Donc finalement, en termes éducatifs, on est quand même toujours un peu à la traîne. Même encore une fois, on fait de notre mieux, mais on reste toujours un peu à la traîne par rapport à eux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que que j'imaginais pas, que ça passe si vite.
Ok. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si tes deux enfants écoutent ce podcast dans 10 ans.
Dans 10 ans.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Si c'est dans 10 ans, j'espère qu'ils trouveront que ce que j'ai raconté, justement, ça a resté dans le sens où ils le pensent toujours. Voilà, qu'ils soient d'accord toujours avec moi dans 10 ans, qu'ils pensent. Je sais pas s'ils seront déjà eux-mêmes parents dans 10 ans. Je suis pas sûr, mais. Mais voilà, peut-être que si ça serait amusant, alors on va dire dans 15 ans, sinon il écoute dans 15 ans, que même soit déjà parent à ce moment-là, peut-être, et que ça les interpelle, ça me fera plaisir de savoir que c'était. On les a élevés du mieux possible, en tout cas. Voilà. Donc, je dis toujours qu'une éducation n'est jamais parfaite, mais par contre, tant qu'on fait de notre mieux, c'est déjà bien. Et alors du coup, je vais terminer par un message pour eux aussi, parce que ça, je leur avais dit il y a pas longtemps, mais ça me fait toujours marrer de leur dire, c'est que moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'ai des enfants qui sont marrants. Et ça, je trouve qu'avoir des enfants marrants, c'est quand même super. C'est-à-dire que avec eux, on rigole vraiment beaucoup, et plus ils grandissent, plus je rigole avec eux. Et ça, je trouve que c'est un vrai bonheur de rigoler tout le temps avec ses enfants. Donc pour le coup, j'espère que dans 10-15 ans, on écoutera le podcast et qu'on sera mort de rire en l'écoutant. Et voilà.
Mais en même temps, les chats font pas des chiens.
Dire. Non, c'est vrai.
Merci beaucoup, Nob, c'était super.
Ben merci, c'était très sympathique.
Je rappelle que ta BD sort, le dernier tome de ta BD, le tome 8 de Dad, sort le 22 octobre.
C'est ça.
Et je mettrai plein de liens pour que les gens puissent te contacter aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Instagram,
etc. Ouais, ça sort super, quoi, pour que les gens t'envoient des messages. Un grand merci à toi, en tout cas.
Et ben merci.
Salut.
Au revoir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi, et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.